Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale Maison Hantée. Alors, nous n'allons pas faire comme il y a quelques saisons, vous emmener, dans une vraie maison hantée, enfin en tout cas réputée comme telle, comme nous l'avions fait à l'époque en compagnie de Jacques Sirgent qui avait écrit sur le sujet. Non, là on va se contenter de parler de films de maison hantée bien au chaud dans notre studio. Nous espérons qu'il n'y a pas de poltergeist dans ce studio, ni d'esprit maléfique, voire que le studio lui-même soit une entité maléfique. Voilà. Donc on va essayer de faire attention et de survivre à cette émission. Dans cette émission, on va vous parler de films qui nous tiennent à cœur dans ce genre, donc dans ce sous-genre du cinéma fantastique d'épouvante qu'on aime beaucoup. Alors on parlera entre autres de Conjuring, des dossiers Warren, un film de 2013 de James Wan qui est disponible en Blu-ray DVD chez Warner. Autre film à peu près de la même époque, Sinister, un film de 2012 de Scott Derrickson, qui est disponible lui chez Whiteside. Moi, je vous parlerai de Trauma de Dan Curtis, voilà, qui vient de sortir chez Rimini. Un film de 1976, Burnt Offerings, son titre original, qui était quand même attendu par nombre d'amateurs de fantastique depuis très longtemps dans une édition digne de ce nom, puisqu'elle n'a jamais existé en France. Jusqu'ici. Et puis, on vous glissera un petit mot sur la série Netflix de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House, une série maintenant qui date de 2018. Et on en profitera pour parler un peu de Doctor Sleep, l'excellente suite de Shining, signée elle aussi Mike Flanagan. L'équipe de Culture Prohibée, d'ailleurs, tient à remercier Jean-Pierre Vasseur pour son aide sur cette émission. Pour causer maison hantée, je suis accompagné de personnages étranges. Alors, ils sont un peu des têtes de fantômes bizarres. Voilà. Ils sont un peu effrayants, mais je les aime bien quand même. Il y a d'abord Damien Demey, qui est surnommé la bête noire de Compiègne, qui est un archéologue animal. Donc lui, quand il fraye dans les souterrains, il est souvent confronté à des entités maléfiques. Mais c'est surtout un archéologue en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Brrr, j'en frissonne, comme je frissonne d'ailleurs en regardant sur ma gauche cet étrange personnage qui s'appelle Thomas Roland, qui est surnommé le loup-garou picard à juste titre, parce que chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureau.com. Il a aussi sa petite émission à l'écoute du cinéma, par exemple, sur d'autres radios concurrentes et néanmoins amies. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas Roland.
Salut Jérôme Potier, salut Damien Demey et bien sûr, salut à toutes.
Pour débuter cette émission effrayante, voilà, je vais laisser la parole à mon étrange ami Thomas, voilà, qui, comme Casper, a très peu de poils sur la tête. Thomas, n'est-ce pas que tu aimes les fantômes ?
J'aime au moins les films qui parlent de fantômes, où il y a des fantômes dedans. Le film dont j'ai choisi, c'est pas vraiment une histoire de fantôme, hein, mais au départ, quand même, le postulat, ça part quand même, c'est quand même une histoire. On peut dire que la maison est hantée.
Qu'est-ce que t'as fait, chérie ?
Un
dessin. Je voulais faire son portrait.
De qui est-ce que tu parles ?
De Stéphanie. Elle habitait ici.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il faut qu'on parte maintenant.
Je veux donc parler de Sinister de Scott Derrickson. Scott Derrickson, c'est pas le plus grand cinéaste de l'univers dernièrement, hein, mais c'est un cinéaste que je trouve quand même intéressant. C'est un cinéaste qui, formellement, n'a pas une identité très marquée, mais au moins, il a des thématiques qui reviennent dans ses différents films. Hein, je pense à son Hellraiser, qui est un peu fauché, mais on retrouve des choses d'Hellraiser dans Sinister, etc. Mais c'est aussi un cinéaste qui est quand même un petit peu puritain, hein, qui développe des thématiques un peu chrétiennes, hein, un peu moralisatrices à travers ses films. Et donc Sinister, moi j'aime bien Sinister, c'est un film qui m'a fait peur. Mais alors j'ai eu peur, je l'ai vu en projection de presse, j'étais terrifié, alors je m'en suis parmi toute la journée, et j'ai même très mal dormi la nuit qui a suivi. C'est un film qui m'a vraiment terrifié. Bon, je l'ai revu depuis, hein, j'ai plus peur quand je le revois maintenant. Mais je trouve que c'est un film qui est très glauque. Je trouve qu'il développe une atmosphère, une ambiance particulièrement malsaine, quoi. Ethan Hawke joue un écrivain sensationnaliste qui écrit des romans sur des crimes non résolus. Et il a cette fâcheuse manie d'aller s'installer dans la maison où le crime a eu lieu. Et donc, il ne le dit pas à sa famille qu'il y a eu une famille entière pendue dans le jardin de la maison dans laquelle il s'installe. Et donc, il veut écrire un livre sur ce mystérieux crime d'une famille entière pendue dans le jardin. En plus, c'est vraiment très glauque parce qu'il y a vraiment le grain 8 mm, ils ont des sacs sur la tête et puis il y a une musique bizarre derrière, enfin bref. Et donc, au fur et à mesure qu'il essaye d'écrire son bouquin, parce qu'il a un peu du mal, c'est un peu un écrivain has-been, hein. Il n'a plus de succès et puis il veut essayer de relancer sa carrière en écrivant un nouveau best-seller sensationnaliste sur un crime non résolu. Et dans le grenier de cette maison, où il commence quand même à entendre des bruits bizarres la nuit, il commence à se passer des choses étranges, il trouve des bobines, il trouve des vieilles bobines 8 mm et un projecteur. Et il s'installe dans son bureau et il commence à regarder ces fameuses bobines 8 mm. Et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre des meurtres filmés en 8 mm donc. Et c'est extrêmement glauque. Et il devient obsédé par ça. D'où viennent ces bobines ? Comment ça se fait qu'elles sont là ? Et il découvre que ces bobines, ces petits films, ont filmé des meurtres qui n'ont jamais été résolus à travers les États-Unis. Et à partir de là, il va découvrir des choses encore plus effrayantes au fur et à mesure que le film avance. Moi, c'est un film qui m'a terrifié. Mais vraiment, ça m'a terrifié. Les scènes en 8 mm, je les trouve extrêmement glauques. Et le réalisateur, il met de la musique dessus. Je trouve que ça a fait une atmosphère vraiment très, très malaisante. Et je trouve que le film aussi, en plus... Bon, c'est un film sur l'obsession, hein. Il y a des plans qui se répètent, le personnage devient vraiment obsédé, on se croit un peu dans un roman de James Ellroy, mais un roman d'horreur de James Ellroy. Il devient vraiment obsédé par cette histoire. Moi, je trouve que le film est bien fait. Je pense que c'est le meilleur film de Scott Derrickson. Après, il a fait Doctor Strange, qui est vraiment complètement impersonnel et inintéressant. Et je trouve qu'esthétiquement, c'est vraiment... Sinister est intéressant, il s'inspire vraiment... Vraiment, c'est... Il est vraiment imprégné de culture chrétienne parce qu'il y a des plans, on voit la famille réunie le soir autour d'une table et c'est vraiment éclairé comme un tableau du Caravage. C'est-à-dire, les personnages, ils sont dans le noir, il y a juste la table qui est éclairée et vraiment derrière eux, c'est le noir complet. On a vraiment l'impression que c'est un tableau du Caravage. Et bon, la fin, moi, je la trouve... Il y a un truc dont je me serais bien passé à la fin, un petit twist, un dernier petit sursaut. Mais je trouve que c'est un film plutôt réussi. Bon, il ne me fait plus rien actuellement, hein, quand je le revois. Je n'ai plus peur comme la première fois, mais vraiment, j'ai eu peur, mais j'étais terrifié, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis, mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir ces dernières années.
Moi, je l'avais vu une première fois en salle, j'avais adoré, je l'ai revu avec un ami, ça l'a traumatisé. Et pour lui, ça fait aussi partie des meilleurs films d'horreur de la décennie. J'aime beaucoup tous les mécanismes au niveau de l'image qui sont mis en place finalement pour nous effrayer, qui m'a beaucoup marqué. Le twist de fin, je l'apprécie, il a une petite saveur. Je pense que si on avait fait une fin différente, le film aurait été tout aussi bon, mais je pense que ça lui donne une certaine, certain sursaut final.
En fait, de twist, c'est surtout le dernier plan. C'est le dernier plan que je trouve complètement ridicule et qui fout tout par terre. Mais sinon, après, avant, c'est correct, mais c'est le dernier plan qui fout tout par terre. Et je trouve que c'est limite cartoonesque.
Ouais, c'est un film qui, pour le coup, m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à sa sortie. Et encore aujourd'hui, il date d'il y a moins de 10 ans, donc forcément, mais il reste très bon. Ou c'est peut-être qu'on n'arrive plus à faire de bons films d'horreur depuis, mais...
Je suis un tout petit peu moins enthousiaste que vous, les amis. Moi, j'ai trouvé que ce film était un bon film de flip, mais que c'était une mécanique un peu trop bien faite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Alors Thomas, c'est vrai, c'est un film sur l'obsession, mais je trouve à un moment que justement, c'est répétitif, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas vraiment de cette obsession des San Ho, qu'elle revient, elle revient, elle revient. Et puis, bon, le twist final, bon, ben voilà, il est là, il y a eu un Sinister 2. Enfin bon, le but, c'est de franchiser un peu tout cela, voilà. Après, moi, j'ai passé un bon moment devant ce film, mais je suis un poil moins enthousiaste que vous, quand même. Par exemple, j'ai préféré le film dont tu vas nous parler, Damien. J'ai préféré Conjuring, les dossiers Warren. Peut-être parce que je trouve aussi que... Alors, qu'il y a un film qui date de l'année suivante, hein. Je trouve pas non plus que c'est un grand film, mais je trouve que c'est un bon film. Mais peut-être je trouve aussi, moi, que James Wan, c'est bien meilleur metteur en scène que Scott Derrickson, en fait.
Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Rien. Mais vous êtes quoi, au juste ? On est chercheur en paranormal, chasseur de fantômes.
Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in this time to
promised lands
to show you everyone.
What's your name? Who's your daddy?
Be rich.
Is he rich like me?
Has he taken any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know.
Culture prohibée.
Conjuring, les dossiers Warren par James Wan. Bon, je vous l'annonce, James Wan, c'est un peu mon réalisateur préféré. Donc, niveau réflexion, vous n'aurez pas un avis vraiment mitigé. Parce que Conjuring, je l'ai adoré, c'est fait par quelqu'un que j'adore. Et donc, que raconte Conjuring ? Conjuring est une histoire croisée de deux familles. La première famille incarnée par le couple Warren. Donc vous avez Ed Warren qui est démonologue et qui a cette magnifique caractéristique d'avoir un diplôme du Vatican sans finalement faire partie des ordres. Et Lorraine Warren qui nous est présentée comme une médium. Et tous deux sont des experts des phénomènes paranormaux. Et en parallèle, on suit l'histoire d'une famille nombreuse qui a décidé de mettre ses derniers sous dans une maison un peu isolée qui vont partir s'y installer pour vivre leur vie. Et en fait, de quelques événements anormaux, les phénomènes vont muter en des phénomènes récurrents vraiment terrorisants qui va pousser la famille dans une situation désespérée qui va les conduire finalement aux Warren. Et donc, c'est un film qui est sorti donc, en 2013 et qui a cette particularité de relancer pour moi l'essence finalement un peu des blockbusters, vu que généralement les blockbusters ça arrivait vers juin, juillet, ça faisait un carton, et vers août on sortait un peu ce qu'on pouvait à ce moment-là. Et du coup avec Conjuring on se retrouve avec un film d'horreur qui débarque en période estivale et qui fait un véritable carton, un énorme raz-de-marée, un peu comme ce qu'avait donné Les Dents de la Mer à l'époque avec Steven Spielberg, qui est vu comme l'un des premiers films qui relance les blockbusters. Et même si j'aime beaucoup Conjuring, avec le temps j'ai un peu un bilan mitigé à son propos. Pour moi il a fait plus de mal à l'industrie du film d'horreur qu'autre chose, notamment parce que maintenant août c'est devenu un peu la période où on commence à lancer les films d'horreur, là on attendait avant septembre pour bien être avec Halloween qui arrivait juste après. Et ça a aussi lancé l'idée qu'avec Conjuring on pouvait, enfin Conjuring s'est aussi inscrit avec le temps dans finalement ces univers étendus que nous fournit tous les ans Marvel, ou bien qu'Universal avait tenté avec son Monstroverse qui est mort littéralement dans l'œuf sans aucun succès. Par contre, il a mené également, et ça je trouve que c'est une bonne chose vu qu'avec le temps on avait accumulé plein, à la fin des found footage qui marchaient constamment sur la même mécanique. À found footage, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'effet, on a l'impression que le film vient d'être filmé avec une caméra portée à l'épaule qu'on a toujours avec nous. Et l'idée du found footage, c'est finalement on a retrouvé cette cassette, regardons ce qu'on a dessus. C'est ce qu'on avait avec Projet Blair Witch. Et il a aussi emmené le retour des films à possession, mais surtout à la surutilisation de screamers. Et c'est très compliqué de faire, de reproduire l'effet Conjuring parce que ça s'appuie sur une esthétique très méticuleuse et vraiment réfléchie, qui est un travail du réalisateur qui a mené à travers toutes ces années, vu que James Wan a débuté avec Saw. Il s'est d'abord basé sur l'intrigue et à travers le temps, il s'est surtout concentré avec Dead Silence. Ou Insidious sur le son, et c'est ça la force de Conjuring à travers tout ce qu'on retrouve par rapport aux maisons hantées, c'est le travail sur le son qui en fait produit déjà avec les effets visuels comme les plans séquences, des moments où il fait monter la tension avec le son qui finalement nous englobe dans cette atmosphère, et ce qui donne des screamers vraiment réussis. C'est vraiment tout un travail au niveau, certes, de l'image qu'il avait déjà pour moi, mais surtout, Conjuring, pour moi, c'est le bilan des années de travail sur l'horreur à travers le son de James Wan qui en ressort de manière fracassante.
Ouais, tu parlais de found footage. Alors, effectivement, on peut faire le parallèle puisque c'est Jason Blum, quoi. C'est les productions de Jason Blum avec des films ineptes comme Paranormal Activity qui ont coûté rien du tout et qui ont rencontré des succès incroyables. Et c'est vrai que quand James Wan reprend un peu le pouvoir sur le cinéma d'horreur, produit donc par Jason Blum, il fait des films qui ne coûtent pas très cher, mais surtout il fait des films formidablement bien mis en scène. Alors James Wan, c'est un très bon metteur en scène. Par contre, je trouve qu'il s'est fourvoyé là dernièrement avec ses films de studio, hein, c'est-à-dire son Aquaman ou son Fast and Furious, où là il devient plus un yes man, quoi. Malgré qu'il essaye d'apporter quelque chose à ces deux films, je pense à La Galerie de Monstres dans Aquaman, ou qui a un côté très série B-50s, ou son Fast and Furious qui a un côté un peu parodique, mais malgré tout, c'est plus le James Wan qu'on a aimé, c'est-à-dire c'est plus le James Wan, même en dehors du fantastique, qui avait fait un formidable polar de vengeance, qui s'appelle Death Sentence, qui est excellent aussi, dont on avait parlé dans l'émission. La maison hantée, c'est un thème de prédilection chez James Wan. Il a fait Insidious 1, Insidious 2, Insidious 2 qui est moins réussi, mais bon, quand même, Insidious 1 qui était un film très intéressant aussi quand il est sorti. Il nous plaisait vraiment, quoi. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Conjuring, dans le sens où je trouve que c'est un film où je pense que c'est celui où il démontre le mieux sa capacité d'être un metteur en scène qui sait utiliser l'espace. C'est-à-dire que cette maison, on la connaît par cœur de ses soubassements jusqu'à son dernier étage. Et il le fait de manière assez brillante. Par exemple, il démarre par un plan séquence très réussi quand la famille investit les lieux, qui en plus passe tout seul parce que c'est pas de la frime. C'est-à-dire que si on s'en rend pas compte que c'est un plan séquence, ça passe très bien. Voilà. Et puis moi j'aime bien parce que ça bouffe un peu à tous les râteliers quand même, et ça se termine par ça se termine par, comment dire, un exorcisme. Que moi, j'aime bien cet exorcisme. Je trouve qu'il tranche avec les exorcismes qu'on a vus dans d'autres films, qui ont tendance, je trouve, à être trop proches du travail de Friedkin, qui reproduisent inlassablement le travail de Friedkin. Et je trouve que là, il fait autre chose qui m'intéresse, voilà, que je trouve intéressant. Et c'est vrai que, personnellement, moi, j'aime bien ce Conjuring, qui est un film qui, par moments, m'a fait peur. C'est vrai que quand je l'ai vu en salle, il y avait des moments qui m'ont fait sursauter, qui m'ont fait... Alors, voilà, je trouve que c'est un film intéressant. Alors après, effectivement, il glamourise, si je peux utiliser ce terme, le couple Warren, hein, qui était quand même beaucoup moins sexy en vrai que le couple Warren qu'on a au cinéma, où on a un beau gosse, puis la belle Vera Farmiga. Enfin bon, voilà, là on est... En vrai, elle ressemblait plutôt à la petite dame qu'on voit dans Poltergeist 2. Elle ressemblait plutôt à ça, d'ailleurs... Le personnage dans Poltergeist 2, c'est elle aussi, hein, en vérité. Hein, donc voilà. Et comment dire, le c'est vrai que ça a donné une naissance à un multiverse qui a quand même donné naissance à un paquet de films vraiment assez mauvais, quoi. Hein, et en particulier, heureusement qu'elle a été un peu sauvée par La Nonne, un film un peu sous-estimé qui est sorti il y a quelques temps. Mais enfin, tout cela, ça rattache un peu péniblement, je trouve, à l'univers des dossiers Warren.
Moi, je sauve quand même Annabelle 2. Je trouve que le film est bon. Et justement, par rapport au son, je trouve que le film s'en tire bien mieux que Conjuring par rapport au traitement du son et l'utilisation de la musique. J'aime bien Conjuring. J'avais adoré quand j'avais vu en salle et je l'ai revu dernièrement. Là, je l'ai un peu revu à la baisse parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets. Il fait beaucoup d'effets sonores. Il utilise beaucoup la musique. Par contre, je trouve que le film est très efficace. Bon, j'ai réévalué la scène d'exorcisme que je trouvais ridicule en salle. Moi, j'ai un peu de mal avec les scènes d'exorcisme, tant que c'est pas Friedkin qui est derrière. Moi, je trouve que les scènes d'exorcisme au cinéma, en général, sont particulièrement ridicules. Hein. Après, moi, je trouve que le film, bon, il est très efficace. Il y a des images assez chocs. C'est extrêmement bien réalisé, on peut pas dire le contraire. Et j'y vois aussi... j'y vois une influence de Robert Wise parce qu'il fait beaucoup, de hors-champ, des choses qui sont dans le flou, dans le fond du cadre. Il joue beaucoup sur la suggestion. Et moi, il y a une scène que je trouve terrifiante, mais vraiment terrifiante, alors qu'on ne voit rien. C'est quand l'une des jeunes filles, là, l'une des filles du couple, se réveille la nuit parce qu'on lui tire la jambe. Et puis elle réveille sa sœur et elle dit : il y a quelqu'un là-bas derrière la porte. Et on a un plan large, on voit la porte et l'ombre derrière la porte, on voit un manteau suspendu dans le coin du cadre, etc. Et il y a sa sœur qui se lève et qui se rend à la porte. Et la gamine dit toujours, il y a toujours quelqu'un, il est juste derrière toi. Et nous, on voit rien en tant que spectateur. Et c'est terrifiant. Moi, je suis terrifié par cette scène. Je trouve que c'est d'une efficacité redoutable. Après, il y a des choses qui me convoient moins à deuxième vision. Comme je disais, beaucoup d'effets... beaucoup d'effets chocs, mais ça reste quand même le haut du panier en termes de films d'horreur. Et puis dans la carrière de James Wan, qui après est tombé dans la beaufrie la plus totale avec Fast and Furious et Aquaman, quoi. Burnt offerings.
Je vous rappelle que pour les adeptes du podcast, hein, vous pouvez vous rendre sur notre blog, hein, culture-prohibée.blogspot.fr, et puis cliquer sur le lien podcast et aller vous promener dans les anciennes saisons, puisqu'on avait rencontré James Wan à l'époque où il enchaînait Insidious, Conjuring, voilà, et on l'avait rencontré et on avait pu échanger quelques mots avec lui. Alors, moi, je vais laisser un peu tomber les films récents, et puis je vais aller un petit peu plus loin dans le temps, plus exactement en 76, pour vous parler d'un film signé d'un petit maître du fantastique qui est un peu oublié, enfin qui est un peu méconnu, même si le temps a un peu réparé l'erreur, qui est un peu méconnu de ce côté-ci de l'Atlantique, qui est Dan Curtis. Dan Curtis qui est vraiment cultissime aux États-Unis, en particulier pour son travail à la télévision, en fait, de la série Dark Shadows, par exemple. Il a travaillé aussi sur Kolchak, voilà. Il a aussi signé quelques films pour le cinéma et pas des moindres, mais il a surtout signé aussi le très connu Trilogy of Terror avec ce sketch et la poupée qui agresse Karen Black. Karen Black, dont aujourd'hui on pourrait croire que c'est une actrice un peu bis, mais à l'époque, c'est pas du tout une actrice bis. Elle a été la vedette d'Easy Rider, elle a été la vedette de Complot de famille d'Alfred Hitchcock au moment où tout ça s'est tourné. Sa carrière à l'époque, elle est au summum de sa carrière quand elle travaille avec Dan Curtis, et Dan Curtis va beaucoup la faire travailler. Il a fait travailler par exemple dans ce film qui s'appelle Burnt Offerings en VO, et qui est, en français s'appelle Trauma, qui est, après tout, qui est un titre qui convient, qui peut très bien convenir à la maison, mais je vois pas le rapport, en fait, avec le titre original. Voilà, j'en vois pas. Bon. Moi, je suis content de pouvoir voir ce film dans de bonnes conditions. Larry Mini l'a sorti dans une belle copie. Il y a bien 10 minutes de plus que la version qu'on avait, 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait une vieille VHS qui tournait, qui avait été sortie chez Initial Vidéo, qui était une VHS quand même assez moche. Hein, voilà. Et là, on est content de pouvoir voir ce film dans de bonnes conditions, qui est un film qui a rencontré un énorme succès critique de la part des amateurs de fantastique, qui a été primé un peu dans tous les festivals où il est passé, et qui pourtant a connu une carrière commerciale absolument désastreuse à l'époque. Alors, pourtant, c'est un film vraiment très, très intéressant. Et je l'ai même revu à la hausse, en le revoyant, en le découvrant là, dans sa version longue, parce que il y avait des éléments sur la sexualité du couple, tout ça, qu'on n'avait pas trop. Enfin, je vais vous raconter l'histoire du film, hein, c'est simple. C'est un couple avec un enfant, la famille Rolf. Hein. Donc le couple, c'est donc Karen Black et Oliver Reed, immense acteur, mais dont la dépendance à l'alcool a un peu condamné la carrière à jouer dans des films de plus en plus bis. Et son dernier rôle au cinéma, je crois que c'est dans Gladiator de Ridley Scott, hein, où il fait l'un des... Il a encore belle allure physiquement, mais bon, il est ravagé malheureusement par l'alcool. D'ailleurs, ça occasionnera là une anecdote de tournage, puisque il va faire boire l'enfant, en fait, qui joue son fils dans le film. Il va le faire boire et sa mère va venir le trouver, va mettre va lui mettre 2-3 claques bien senties au visage. Oliver Reed ne rétorquera pas. Bon, quand on voit la masse physique d'Oliver Reed, vaut mieux pas qu'il ait rétorqué, parce que je pense qu'il vous casse en 1000 morceaux d'une seule main. Mais en fait, Oliver Reed, qui donc dans le film s'appelle Monsieur Rolf, hein, c'est la famille Rolf, et il y a tout un prologue du film qui a été enlevé, qu'on n'a jamais vu, qui était dans le scénario de base, où on voit que c'est une famille pauvre, en fait, qui habite vraiment en milieu urbain, je crois que c'est New York, voilà, et qui décide de venir s'installer comme ça pour l'été dans une maison qu'ils vont louer pour les vacances, qui est une magnifique demeure. En fait, quand il découvre la maison, le début du film, c'est ça. Il trouve cette demeure incroyable. Donc, ce couple avec cet enfant d'une dizaine d'années, là, trouve cette demeure incroyablement belle. Et il la loue pour pas un rond, quoi. C'est quand même très étrange. Et donc, il débarque dans cette demeure. Il y a des vues. Un vieux, une vieille qui sont là. Un vieux joué par Burgess Meredith, le fameux Burgess Meredith, surtout pour les fans de Rocky, hein, puisque c'est Mickey, hein, l'entraîneur de Rocky. Voilà, Burgess Meredith. Et il y a l'entraîneur historique, hein, voilà. Il leur dit juste, bah, prenez bien soin de la maison, de toute façon la maison va se régénérer, tout ça et tout, donc on sait pas trop. Alors effectivement, du coup, ça donne un film de maison hantée particulier, parce que la maison en tant que telle, elle est pas hantée par des fantômes, mais c'est la maison elle-même qui est maléfique, et qui se nourrit de l'âme des gens qui viennent y résider. Et effectivement, plus il y a de drames, plus il se passe de choses étranges dans cette maison, plus plus, comment dire, la maison est belle, la nature reverdit, les murs, les fissures sur les murs s'en vont, enfin bon, voilà. Et évidemment, le couple va se mettre à avoir un comportement de plus en plus étrange. Les deux personnes âgées qui les accueillent leur disent, surtout à l'étage, il y a une dame très vieille qui ne sort pas de son lit. Tous les jours, votre mission sera de lui apporter à manger. Et donc, Karen Black prend en charge cette mission d'apporter à manger chaque jour à cette personne qu'on ne voit jamais, qui est dans cette pièce qu'on ne voit jamais. Et donc, qui va cristalliser un peu, voilà, parce qu'il va y avoir une sorte d'identification de Karen Black à cette personne. Je vous en dis pas plus. Et tout va se dérégler. Le film dure assez longtemps, il dure pratiquement 2 heures, il dure 116 minutes. Et tout va se dérégler petit à petit. On devine que le couple a une sexualité qui bat de l'aile. On devine qu'il y a des difficultés dans l'éducation de l'enfant. Et puis tout va se cristalliser à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, avec l'influence de la maison, Oliver Reed va tenter de noyer son enfant dans la piscine, de manière très violente. Très très violente. Et ce qui est très intelligent, en fait, dans le film de Dan Curtis, c'est que ça, en fait, on croit que c'est, pendant une grande partie du film, on croit que c'est Oliver Reed qui va péter les plombs, massacrer tout le monde, devenir fou. D'ailleurs, le film, qui est un film que Stephen King adore, va influencer Shining, hein, et va influencer Kubrick, parce que c'est vraiment un film de maison hantée quand même très très réputé, et va influencer Kubrick. Par exemple, le final de Shining ressemble énormément au final de... Le dernier plan ressemble énormément au dernier plan de Trauma. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il a vu le film, quoi. Hein, voilà. Et on croit que c'est ce type qui va devenir fou. Et à partir de cet événement, en fait, le type prend conscience que la maison est maléfique. Et c'est la femme qui devient folle, en fait. Et avec eux, ils ont aussi... comment dire, j'ai oublié de le préciser. En plus, quand même, elle n'est pas interprétée par n'importe qui, puisque c'est Bette Davis, hein, qui joue le rôle d'une grand-tante, voilà, très âgée, et qui, elle, petit à petit aussi, va sérieusement dérailler, va se dégrader au fur et à mesure que son état de santé va se dégrader au fur et à mesure que l'état de santé de la maison progresse. Et Oliver Reed aussi, il est très travaillé par le souvenir de l'enterrement de sa mère, et il revoit apparaître le croque-mort au visage très émacié qui conduisait le corbillard, en fait, qui a emmené sa mère au cimetière et qui a un visage qui l'a traumatisé. Alors, tous ces événements-là vont contribuer, en fait, à créer une ambiance très étrange, un film très, très, très étrange et qui va totalement basculer petit à petit, par petite... Comme ça va infuser petit à petit. Le film va être contaminé, en fait. Et moi, je l'ai revu à la hausse. Alors, j'aimais beaucoup déjà la copie dégueulasse que j'avais vue avec la VF affreuse. Affreuse, la VF. Ne regardez pas ce film en VF. La VF, elle est horrible. Et là, je l'ai redécouvert. Et j'ai découvert le travail sur la photographie de Jack R. Marquette. Je trouve, en fait, que le film est beau, quoi. Et avec Thomas, on avait échangé avant de le revoir. Thomas me disait, c'est un côté téléfilmesque. Et c'était un... Alors effectivement, c'est un Dan Curtis, c'est un roi de la télé. Hein. Il a révolutionné la télé, en particulier le fantastique à la télé. Mais moi, à revoir le film, en fait, je ne trouve pas. Alors que dans ma mémoire, oui. Et quand je l'ai revu, non. Je trouve qu'il y a un travail sur la photographie, il y a un travail sur la mise en scène qui, en fait, me fait dire que non, il utilise très bien son format, que c'est vraiment du bon cinéma de terreur, du bon cinéma très effrayant, très classique. Mais très effrayant, et j'aime beaucoup la photographie du film. Et c'est vraiment, je trouve, un excellent film. Et tout est au diapason, je trouve les acteurs excellents, je trouve le film vraiment malaisant, vraiment étrange, vraiment, plus le récit avance, plus on est dérangé en tant que spectateur. Il se passe pas grand-chose et on reste complètement scotché, happé par le film. Ce qui est rigolo, par contre, dans ce film, c'est qu'on j'ai découvert en lisant le livret, là, parce que c'est une très belle édition. Il y a un livret de 24 pages écrit par Marc Toulet. Il y a des bonus très intéressants avec des interviews d'acteurs, tout ça. Et il y a, c'est un film qui devait être réalisé par Bob Fosse, en fait. Et Bob Fosse a abandonné le projet. Alors, Bob Fosse, vous connaissez, on en a déjà parlé dans l'émission, le réalisateur de Cabaret, un réalisateur qu'on adore, hein, immense metteur en scène. Et je me demande ce qu'il aurait fait, ce spécialiste de la comédie musicale, d'un film de maison hantée. Et c'est vraiment un film de cinéma, en fait, c'est pas un téléfilm, c'est vraiment un film de cinéma. Et c'est un film de cinéma qui va jusqu'au bout de l'horreur, parce que c'est un film vraiment qui est noir jusqu'au bout. Il n'y a pas de happy end dans ce film, hein. il n'y a pas de salut pour ses protagonistes. Et en plus,
Alors, je pense que ça a dû être dur à tourner pour Dan Curtis. Il faut savoir que ça a été très compliqué, que les problèmes d'alcool d'Oliver Reed ont vraiment miné le tournage, que Bette Davis a été absolument infecte, en particulier avec Karen Black. D'abord, heureusement qu'il avait Karen Black, visiblement Dan Curtis, pour s'appuyer sur elle. Et que, en plus, pendant le tournage, la propre fille de Dan Curtis est morte et s'est suicidée. Donc ça a été quelque chose de très compliqué, une épreuve. C'est peut-être pour ça que ce film est un peu à part dans sa carrière, est vraiment noir, sombre, parce que c'est un film, ça rigole pas quand même. Écoutez Culture Prohibée, spéciale Maison Hantée.
La première fois que j'avais revu le film en Blu-ray, j'avais trouvé quand même une petite facture téléfilmée. Je trouvais que l'image manquait un petit peu de souffle. Il y avait cette facture très, très typique de l'époque, hein, les années 70, hein, avec le lettrage au générique, etc. Mais là, je l'ai revu un peu à la hausse. Effectivement, je n'ai pas retrouvé cette facture qui m'avait marqué à l'époque, la première fois que j'avais revu en Blu-ray. Et il faut savoir que c'est un film qui s'inspire d'un roman de Robert Marasco, qui était sorti aux éditions Néo une première fois en France, sous le titre Notre Vénérée Chérie, et republié ensuite dans la collection Pocket Terreur. Et dans le roman, il y a effectivement ces passages. Le film est relativement fidèle au roman, hein. Il y a effectivement ces passages où on voit la famille dans leur boui-boui à New York et qui essaye de vouloir s'évader un peu pour l'été, quoi. Moi, le titre français, je trouve hors propos. Je ne comprends pas le titre français. Je ne vois pas ce qu'il fout dans le film. Mais par contre, je trouve que le titre original, ils auraient dû le traduire. Mais enfin, le titre original, textuellement, c'est Holocaust. Hein. Burnt Offering, c'est Holocaust. Holocaust, c'est le nom, c'est le mot qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans la Bible. C'est quand on offrait des veaux, des bœufs en Holocaust à Yahvé. Hein. C'est-à-dire qu'on leur fout, on les tue, on les cramait, quoi. Littéralement, et je trouve que effectivement il s'agit ici d'un holocauste, d'un burnt offerings qu'ont cette famille qui est littéralement sacrifiée à cette entité maléfique qu'est la maison. Et je trouve qu'on peut y voir aussi un discours très social, très politique, parce que finalement ce sont toujours les riches qui s'en sortent au détriment des classes les plus populaires, quoi. Les plus populaires trinquent pour pouvoir engraisser encore et toujours les riches. Pour moi, c'est ce que raconte Burnt Offerings de Dan Curtis, qui est effectivement un classique qui était très attendu. Hein. Je pense qu'il va faire un carton, ce Blu-ray. Hein. Un classique du film d'horreur qui était effectivement méconnu. D'ailleurs, Dan Curtis, tu le dis, reste encore plutôt méconnu. Hein. Il ne rentre pas encore dans dans les annales du cinéma fantastique. Tout de même, il n'y a pas encore eu de rétrospective à la Cinémathèque. Hein.
Un peu injustement méconnu parce que son travail est vraiment passionnant. Voilà. Et alors, un autre qui a fait le grand écart au cinéma télé, mais qui est plus un homme de cinéma que de télé, c'est Mike Flanagan. Et je voulais terminer l'émission en évoquant assez rapidement une série qui est vraiment très intéressante, qu'il a fait en 2018. Oh, je vais vous l'avouer, hein, je l'ai découverte cette série très récemment parce que j'ai lu que c'est cette série qui aurait motivé un peu Stephen King à travailler avec lui sur Dr. Sleep. On parlera certainement aussi de Dr. Sleep qui est aussi quelque part une variante autour du film de Maison Hantée, hein, voilà, hein, et qui est un des meilleurs films fantastiques de cette année. Enfin, je crois qu'on peut le dire. Et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que j'en attendais rien, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Et The Haunting of Hill House, alors le principe c'est simple, hein, Flanagan, il se fait The Haunting of Hill House, qui est adapté donc, du roman éponyme qui a inspiré donc, La Maison du Diable de Robert Wise, enfin voilà, qui est un roman signé Shirley Jackson, qui est un grand classique de la littérature fantastique, et qui est l'un des livres de chevet de Stephen King. Et que là, Mike Flanagan choisit d'adapter, donc de trahir, évidemment. Hein, une bonne adaptation, c'est forcément une trahison. Et Flanagan décide de faire cette série, qui va se tenir sur 10 épisodes, qui se déroule lors de l'été. Alors, c'est une série qui fait sans cesse des allers-retours entre le passé et le présent. C'est vraiment bien construit, c'est assez fort en fait. Elle débute à l'été 92 lorsque le couple Hugues et Olivia Crane, ça me permet de revoir Carla Guccino d'ailleurs, l'actrice que j'aime beaucoup, et s'installe temporairement dans un ancien manoir dans le but de le rénover et de le revendre. Alors, ils ont visiblement des compétences en architecture, tout ça. Voilà, c'est un couple qui sait y faire, c'est un peu leur métier, quoi, et qui décide de faire une plus-value, donc ce manoir qu'ils ont eu pour une bouchée de pain. On va découvrir pourquoi ils l'ont eu pour une bouchée de pain, bien évidemment. Et ils ont 5 enfants, Steven, Shirley, Theodora, Luc et Eleanor. Et puis, un soir, panique à bord, le père met tous les enfants dans la voiture, leur dit de ne pas regarder derrière eux, ils s'enfuient, ils laissent la mère dans la maison, et ils ne reviennent jamais dans cette maison. Et la mère meurt, en fait. Hein, voilà, on n'a pas de nouvelles d'elle, elle disparaît. Et ils ne reviennent jamais, jamais, jamais. Alors les enfants se coupent du père, on les retrouve adultes. Et petit à petit, alors que c'est effectivement, ça joue à fond sur l'écriture de séries télé, c'est-à-dire que petit à petit, chaque personnage, dans les premiers épisodes, a le droit à son épisode pour justement expliquer en gros un peu son parcours depuis ce qui s'est passé lors de cette fameuse nuit de 92, où les enfants ont été abandonnés par leur père. Et ils ne parlent plus à leur père, d'ailleurs. C'est terminé. Ils ne parlent plus à leur père, qui est joué par Timothy Hutton, d'ailleurs, qu'on peut retrouver du coup dans ce rôle particulier. Et puis un jour, comment dire, va se passer quelque chose de très particulier. Alors, chaque Crane a vécu l'événement d'une certaine manière. Steven, l'aîné, est devenu un roman à succès. Et lui part du principe que toutes les apparitions, les fantômes qu'il voyait, tout ça, n'existaient pas. Que c'était une construction mentale et que voilà. D'ailleurs, la série joue beaucoup là-dessus. Hein. Shirley, la cadette, elle est devenue Thanatopractice. Alors, évidemment, du coup, un regard sur la mort bien particulier. Alors, c'est celle qui a le mieux géré les choses, on va dire, qui semble en apparence le mieux avoir géré les choses. D'ailleurs, ça donne un aspect aussi Six Feet Under à la série, qui est assez intéressante. C'est une sorte de Six Feet Under fantastique. Il y a aussi un aspect mélo que j'aime moins, mais bon, voilà. En tout cas, elle a un regard très froid sur la mort. Il y a les jumeaux qui sont les jumeaux les plus jeunes. Qui sont Nell et Luc. Alors Luc est devenu un toxicomane, addict, alcoolique, toxico, enfin tout ce qu'il peut. Voilà. Ça l'a rendu fou en fait, ces apparitions de fantômes qui continuent de le hanter, de le poursuivre. Tandis que Nell, la petite dernière, est devenue une sorte de fille un peu diaphane, secrète, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, mais qui a plutôt une vie équilibrée avec un compagnon, tout ça, mais qui est bien sûr travaillée par des cauchemars et tout ça. Et puis, il y a le personnage que je trouve le plus intéressant, Théo, qui est bisexuelle, qui porte tout le temps des gants, parce qu'en fait, elle a le Shining, Et un mélange de Shining et de Dead Zone. D'ailleurs, c'est ça qui a plu aussi à King. C'est-à-dire que Mike Flanagan l'avoue, j'ai piqué ça à Stephen King. Voilà. Et donc, en fait, elle ne veut toucher personne parce que dès qu'elle touche quelqu'un, elle découvre évidemment tout son passé, tout ce qui l'a amené à mourir et tout ça. Et alors bon, donc chacun, vous avez deviné, ils ont un peu des accointances avec le paranormal, quoi. Et puis voilà.
Maintenant, vous allez faire un bon dodo.
Mais si jamais j'avais un mauvais rêve?
Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve.
Et si jamais je fais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir?
Un endroit horrible.
Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison? Et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie. Et puis mon cœur se casse en deux morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. Et qu'à la fin je supporterai plus, alors il faut que je meure. Et je me retrouve sur une table en fer, avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir.
Ça m'a donné une série très particulière parce que c'est une série... Bah c'est Flanagan, donc il n'y a aucun jumpscare, il n'y a aucun effet tape à l'œil, il n'y a que de la mise en scène tout le temps. Il est malin en même temps parce que tous les éléments qui participent du dénouement de la série sont... Parce que la saison 1, c'est la saison complète. Hein. Chaque saison, en fait, concernera une maison différente. Et tous les éléments qui permettent de résoudre l'énigme sont en fait présents dès le premier épisode. C'est un sacré malin, voilà, le père Flanagan. Et il y a un épisode 6 qui est fabuleux, qui est quasiment en un seul plan séquence, qui est incroyable. Qui est incroyable. Et ce qui va déclencher un peu tout ça, c'est la mort de Nell qui va se suicider, en fait, de la petite dernière. Et donc, du coup, ils vont tous être amenés à se réunir, alors qu'ils ne se parlaient plus, qu'ils ne se voyaient plus tous et tout ça. Et bah évidemment, vous doutez bien, ils vont retourner dans la maison, quoi. Et là, ça va chier, quoi. Voilà. Il va y avoir la bagarre avec les fantômes, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai envie de faire le lien avec un film récent, parce que du coup, Flanagan, moi, que j'ai redécouvert, c'est pour ça que j'ai regardé la série, il m'a un peu enchanté avec cette série, même si je trouve que le dernier épisode dure 10 minutes de trop. J'aurais préféré qu'il se termine quand les portes de la maison se referment. Pour ceux qui ont vu, ils comprendront. Et qu'on ne nous impose pas cette happy end voilà, qui ne sert pas à grand-chose, je trouve. Mais y a quand même beaucoup de choses très intéressantes dans la série de Flanagan. Et puis derrière, il y a Dr. Sleep, quoi. Et Dr. Sleep, ça, Thomas, c'est quand même une belle claque cette année, Dr. Sleep.
Et oui, un film d'horreur comme moi, je les aime. C'est-à-dire un film d'horreur sans effet sonore là, de jumpscares à deux balles ou de la musique tout le temps. C'est très anti-spectaculaire. Il y a quelque chose de très intimiste hein, dans la mise en scène de Flanagan. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Qui je trouve redonne un renouveau au cinéma d'horreur. D'ailleurs, je pense même que le réalisateur d'Annabelle 2 s'inspire du style de Flanagan. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, que Flanagan a su redonner un souffle au cinéma d'horreur qui commence à devenir, qui commence à être copié. C'est-à-dire, on commence à refaire du cinéma d'horreur comme dans les années 70, les années 60-70, c'est-à-dire sans effet facile, sans effet sonore, sans jumpscares. Et tout est dans la suggestion, dans une sorte de mise en scène très... comment dire, très, très intimiste, oui, ou sans que ce soit hyper spectaculaire. Le film dure plus de deux heures. Moi, je me suis pas ennuyé un seul instant. Et je trouve qu'il y a des grandes scènes. La scène où ils chopent un gamin pour lui faire subir ce qu'ils ont envie de lui faire subir, je trouve que c'est quand même une scène particulièrement malaisante.
Pour les auditrices et auditeurs, parce qu'on en avait déjà parlé, tu avais rencontré Stephen King au moment de la sortie du livre, je crois, Dr. Sleep. C'est la suite de Shining. Et en fait, c'est le petit Danny Torrance qui a grandi, qui est devenu un adulte et qui est confronté en fait à une secte de vampires qui se nourrissent de l'énergie des personnes qui ont le Shining en fait dans le monde. Et il s'allie avec une petite fille qui est très forte, qui a un Shining encore plus puissant que lui, pour lutter contre cette secte, en particulier cette secte qui est menée par une leader, l'actrice que je connaissais, mais là qui est une véritable révélation, c'est Rebecca Ferguson.
Oui, Rebecca Ferguson qui porte un chapeau. Donc forcément, elle est très sexy dans le film. Et c'est vrai qu'elle bouffe l'écran, qu'elle bouffe littéralement l'écran, qu'elle rayonne. Ben, de toute façon, il paraît que c'est quelqu'un qui est très charismatique. Déjà dans l'émission Impossible, que moi, je n'adore pas. Hein, ce ne sont pas des films que je préfère. Mais déjà, surtout dans le 5, elle apporte une sensualité qui n'était pas forcément dans les précédents, malgré... Pourtant, il y a Paula Patton dans le 4, hein, mais je trouve qu'elle apporte un plus dans le 5, qui est moins présent dans le 6, que j'aime encore beaucoup moins. C'est vrai que c'est une actrice qui a une présence, qui a quelque chose, et là, elle apporte quelque chose à ce personnage, à Rose the Hat, hein, dans le roman et puis dans le film. Elle apporte quelque chose, et c'est, de toute façon, Hitchcock le dit, hein. Pour faire un film réussi, il faut que le méchant soit réussi. Si le méchant n'est pas réussi, le film est fade ou quelque chose comme ça. Et effectivement, là, la méchante, c'est une méchante, est très réussie. Et forcément, on ne peut que marcher à fond. Et aussi, la grande force de Flanagan, c'est que ces méchants ne sont pas méchants. Enfin, ce sont des êtres qui veulent survivre dans un monde où c'est difficile. Enfin, ils sont méchants, ils sont quand même assez cruels. Hein. Je veux dire, l'empathie, ils ne connaissent pas beaucoup. Mais ce sont des personnages qui ont une humanité, qui ont quelque chose. Et ces personnages ont une épaisseur. Ils les personnifient. L'un qui est intéressant aussi, c'est The Crow, qui est le meilleur ami de Rose the Hat. Qui est un personnage que je trouve très intéressant aussi, voire peut-être même plus dans la complexité qu'il est, dans ce qu'il apporte par rapport au film. En tout cas, les méchants me semblent plus intéressants que les gentils dans le film. C'est l'impression que j'ai après cette vision de Dr. Sleep, qui est effectivement l'un des meilleurs films de l'année.
J'appelle ça le Shining.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.